France Musique. France Musique, Open Jazz, Alex Dutil.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir les Céline.
Bonsoir cher Alex.
Forêt, Ravel au programme, mais là on a Petrucciani. Est-ce que c'est pas un classique aussi d'une certaine façon?
C'est un grand classique, Michel, en fait, mais au sens fondamental.
Oui.
Au sens fondamental de notre histoire du jazz.
Et au sens des battements du cœur aussi.
Ah oui, de l'énergie.
Vous avez pas joué à quatre mains avec lui ou à deux pianos? Ça
non,
vous est jamais arrivé?
Non, on s'est rencontrés souvent, on s'est croisés souvent. Ça s'est arrêté là, évidemment. Mmh. On aurait pu faire un deux pianos. Je pense que dans l'énergie, on aurait trouvé sans doute quelque chose de commun.
Hervé Céline, si vous êtes là, c'est parce que vous récidivez avec un pas de côté. Récidiver pour aborder un grand classique, ça avait été Debussy la fois d'avant. Et cette fois-ci, c'est Gabriel Fauré, on est dans l'année parfaite, et aussi Maurice Ravel. Vous les avez associés parce que vous pensiez que c'était plus intéressant que de consacrer un album entier, ou à l'un ou à l'autre, Hervé Céline.
Oui, et puis c'est pour être plus dans l'inattendu et dans le non prévisible peut-être encore, et pas faire une fois Debussy, une fois Fauré, une fois Ravel.
Joe Farrell, grand flûtiste.
Joe Farrell, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire après? Tout ça, c'est attendu. En fait, l'idée même au départ, c'était de faire Fauré, Ravel et Satie. Mmh. Parce qu'en fait, c'était un grand hommage que j'avais envie de faire à la musique française et aussi aux musiques qui ont influencé le jazz et qui ont influencé mon parcours de pianiste classique aussi au départ. Et puis, c'est une manière aussi de régler mes comptes avec peut-être la musique classique que j'ai pratiqué quand même de nombreuses années. Et donc
parce que vous avez cette double face aussi.
Oui. J'ai fait des études classiques que j'ai menées jusqu'au bout. Et j'ai eu la chance d'avoir de grands professeurs qui étaient Pierre Soncan, Aldo Ciccolini. Donc c'est des gens qui m'ont élevé à cette poésie, à cette couleur de la musique impressionniste, de la musique moderne et du post-romantisme et tout ça. Donc c'est à la fois un pas de côté, comme vous disiez, mais c'est à la fois une continuité pour moi. Et puis c'était une façon aussi de recoller les morceaux, parce que quand j'ai eu fini mes études classiques, je me suis jeté à corps perdu dans le jazz et ça m'a sauvé un peu de la rigueur et de la difficulté que j'ai pu avoir. À être dans cet esprit de compétition qu'il y a au conservatoire et tout ça. Surtout que ça, c'était dans les années 70, donc c'était encore plus conservateur. Mais donc pour moi, c'est une grande continuité, et puis c'est surtout le fait de retrouver la musique tout court. Mmh. Et puis de pas me faire étiqueter ou m'étiqueter moi-même, comme on m'a souvent étiqueté dans le jazz en tant que pianiste bebop. Non, moi je...
Ah là, on en est loin.
Oui, oui.
Alors le disque sort chez Indécence.
Oui.
Et j'ai choisi un Fauré pour commencer, extrait des trois mélodies, après un rêve. Et non seulement vous êtes au piano, mais vous êtes aussi au Fender Rhodes.
Thank you.
Hervé Sélin, dans une interprétation de « Après un rêve » dans les trois mélodies de Gabriel Fauré. C'est cet album « Jazz Impression ». C'était déjà le principe du Debussy que vous aviez publié auparavant. « Jazz Impression » Fauré-Ravel qui sort chez Indécence. Pourquoi avoir utilisé, comme Bill Evans l'avait fait, mais comme on entend aujourd'hui Pierre de Bettman ou Boyan Z le faire, à la fois le piano et le Fender Rhodes.
Alors,
Hervé Sélin.
Là, pour ce titre-là, notamment, c'est vraiment pour... parce que l'idée d'après un rêve, pour moi, c'était de travailler plutôt sur pendant le rêve et de donner quelque chose d'un petit peu dérangeant, un peu acide.
Un peu étrange.
Et le mélange entre les harmonies, déjà, certaines dissonances, et le Rhodes mélangé à l'unisson avec le piano, donnait ce côté assez irréel, voire un peu angoissant. Et puis du coup, ça m'a donné envie de faire une jam au début.
Avec vous-même.
Avec moi-même, c'est-à-dire que je m'accompagne et je fais le soliste sur une grille harmonique qui est tirée de la mélodie elle-même, mais qui est d'une jazzitude absolument phénoménale.
Vous le traitez comme un standard.
Oui, en fait c'est ce que je fais, je déshabille en fait les... Ce que je prends, que ça a été pour Debussy, Fauré ou Ravel, je prends les chansons en fait. Et je les déconstruis, je les reconstruis complètement à ma manière, à la fois avec tout ce que j'entends, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est dans mon subconscient de reconstructeur. Et voilà, ça donne ça.
Alors pour Ravel, on sait que Bill Evans, entre autres, avait une grande admiration pour lui. Quand vous reprenez la pavane pour une enfante défunte, vous pensez plutôt à d'autres jazzmen que Bill Evans, ou à lui en particulier, ou pas du tout?
Alors, je laisse de côté les références pour pas être influencé.
Pour pas être encombré.
Voilà, alors que d'autres l'aient fait, y compris Bill Evans ou d'autres, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des chefs-d'œuvre qui ne peuvent que nous inspirer les uns les autres. Mais après, j'essaie de pas trop y penser, de pas trop les réécouter, pour vraiment faire quelque chose qui vienne de moi, même si on entend toujours des références à droite, à gauche. En fait, la créativité, l'improvisation, c'est toujours fait de choses qu'on a dans son subconscient. Après, le talent qu'on peut avoir, c'est la manière de mettre les choses ensemble et d'en faire quelque chose de cohérent. C'est ça qui est important. Mais j'essaie de pas trop me faire influencer.
La pavane par Hervé Sélin. Les jazz impressions d'Hervé Sélin sur la pavane pour une enfante d'infante de Maurice Ravel. Dites-nous vraiment, Hervé Sélin, vous étiez fou amoureux du piano ou il était fou amoureux de vous ?
Du piano sur lequel j'ai joué.
Oui, sur lequel on entend ça. C'est en Fazioli au studio de
c'est
Meudon.
C'est Fazioli au studio de Meudon qui est préparé par le maître des lieux, Bernard Foulon, qui est
entend...
un amoureux lui-même des pianos et on partage ça en fait.
On entend une rencontre amoureuse entre
oui.
lui et vous.
Oui, oui, c'est absolument ça. Parce que le Fazioli, c'est un piano à dompter. C'est un peu comme une Ferrari. Il faut un technicien hors pair, qui est Bernard Foulon, et ensuite il faut un pilote. Il faut pas seulement un mécanicien. Il faut un pilote de Formule 1 sur ces pianos-là.
Et puis il faut le laisser ronronner.
Les
basses sont somptueuses, entre autres.
Il y a un spectre de sons qui est absolument fabuleux. Et moi j'aime ça parce que c'est à la fois un challenge de dompter un piano pareil, et puis c'est l'idée de créer un son qui soit celui que moi je vais avoir à ce moment-là, sur ce piano-là, et pas un son qui serait celui de tout le monde sur un piano que l'on connaît déjà.
Hervé Sélin, j'entends aussi un point de vue, évidemment, sur la composition de Ravel. Comme tout à l'heure, vous la prenez avec une liberté sur la mélodie. Vous y avez vos propres harmonies, celles d'un jazzman. Mais peut-être qu'elles sont un peu aussi déjà dans Ravel, ces harmonies-là.
Avec Ravel, on n'a qu'à se baisser pour les ramasser. Hein. C'est vrai que Ravel s'est énormément inspiré des harmonies du jazz. Moi, de par ma double casquette, j'ai à la fois dans mon inconscient Ravel et le jazz, et tous les jazz, surtout depuis Jelly Roll Morton jusqu'à Cecil Taylor. Donc quelque part, ce mélange-là, il existe déjà parce qu'il est là. Donc quelque part, le travail que j'ai à faire, c'est juste comment je vais mélanger tout ça, comment je vais faire un bon plat avec tous ces bons ingrédients. Mais quelque part, avec Ravel, c'est assez facile.
Et quand vous avez choisi Davnis et Chloé, il y avait une raison particulière ?
Alors là, oui, parce qu'en fait, dans le disque sur Debussy, j'ai traité essentiellement des œuvres pour piano. Et ça, je voulais pas refaire la même chose, donc j'ai vraiment tapé dans de l'orchestral ou du vocal. Donc pour Fauré, il y a le Requiem, il y a le Après un rêve, il y a la Pavane, tout ça, ce sont des œuvres vocales ou orchestrales. Et pour Ravel aussi, Daphnis, la Pavane, il y a qu'une seule œuvre véritablement pour piano, c'est un prélude pour piano de Ravel que j'ai enregistré à la fin de l'album juste pour clore et puis peut-être pour revendiquer le fait que finalement je ne suis qu'un pauvre pianiste.
Daphnis et Chloé, Hervé Célin, dans cette jazz impression Forêt Ravel qui sort chez Indécence, toujours ce magnifique Fazioli, mais aussi l'utilisation du Fender Rhodes. Alors là, vous m'avez vraiment surpris, Hervé, parce qu'il est caché. Et tout d'un coup, on le voit surgir, d'abord pour doubler la main gauche, et puis pour arriver devant, et puis il s'efface. C'est une apparition, disparition. Ouais. La surprise, ça faisait partie du scénario de ce Daphnis et Chloé, ou de votre philosophie générale?
Ça fait partie de tout ce que je mets en œuvre. De toute façon, la surprise par rapport à un répertoire comme celui-là, pour moi, elle est obligatoire. Parce que si c'est juste pour illustrer avec trois accords jazz quelque chose qu'on connaît déjà et auquel on s'attend, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc la surprise, il faut la créer et la vivre en même temps. Et ça me vient aussi beaucoup de notre ami Martial Solal, qui, à chaque fois qu'il est venu m'écouter, me prenait à part en coulisses en me disant « Hervé, surprends-moi ».
Et donc, du coup, vous vous surprenez vous-même.
Du coup, je me surprends moi-même. Et ça, c'est mon leitmotiv depuis assez longtemps maintenant. Et surtout aussi se surprendre dans le fait de pas toujours être là où on nous attend, là où on m'attend. C'est-à-dire que, oui, le jazz, mais le classique, mais les chansons de Michel Legrand, mais autre chose. J'ai à la fois envie de pas être là où je devrais être, parce qu'on a dit qu'il fallait que je sois là. Et puis moi aussi, je veux rester vivant. Et continuer à explorer des choses qui c'est tellement excitant, c'est tellement excitant ça.
Est-ce que vous avez prévu dans chacune de ces pièces un scénario parce que là c'était comme une suite, ce Daphnis et Chloé, avec des moments qui se succèdent, où ça s'est fait dans l'instant avec l'inspiration du moment, où vous aviez prévu ces passages-là?
Non, je prévois pas. Je passe évidemment des heures, des semaines, des mois à tester des choses, à jouer, à écrire, à effacer, à jeter, à déchirer, enfin, et à recommencer. Mais je suis très très préoccupé par la forme, ça c'est sûr. Donc de toute façon, je ne m'arrête que quand je suis satisfait de la forme globale des choses. Et sur un album, je m'arrête que quand je suis satisfait de la cohérence de l'album entier. C'est pour ça que je dirais à tout le monde, allez acheter l'album. Ne téléchargez pas des morceaux par-ci, par-là. N'écoutez pas un morceau. Écoutez l'album. C'est toute une histoire, un album. Et moi, je construis les albums comme ça. Comme on a construit cet album en trio avec Jean-Paul Séléa et Daniel Humer l'année dernière. Ça raconte une histoire de la première note à la dernière note. Et c'est pas des morceaux les uns. Et j'irai même plus loin, l'objet. Le CD, la pochette, les photos, les textes qu'on a pu mettre dedans.
Oui,
les
parce que vous avez des textes très détaillés sur chacune des pièces.
Oui, mais c'était important. C'était important parce que là, le scénario, le voilà. Mais il est né après la musique.
Je vais vous faire une surprise à mon tour, Hervé Célin. C'est l'opus 56 de Gabriel Fauré. C'est la Dolly Suite, c'est la berceuse de la Dolly Suite. Revue par Enrico Pieranunzi, qui lui sort avec un jeu de mots, un forever à propos de forêt. Thank you. Enrico Pieranunzi avec Diego Humbert à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie. Forever, Forever avec un accent sur le « et » de forêt, ça sort chez Bonsaï. C'était Bonjour Dolly, d'après la Dolly Suite, opus 56 de Gabriel Fauré. Vous n'avez pas été surpris de voir Pieranunzi aborder Fauré en trio, Hervé Sellin?
Non, parce qu'en fait, on se connaît bien avec Enrico. Ça fait très longtemps qu'on a des parcours un peu parallèles, que ce soit même dans le jazz, c'est-à-dire la formation classique, l'accompagnement des Américains, tout ça. Et puis, il avait aussi produit un album sur Debussy à la même époque que moi. D'ailleurs, on s'était rencontrés à Paris à cette époque-là. Et puis là, Fauré, oui, parce qu'il a cette culture aussi, cette double culture. Après, il y a cette espèce de foisonnance, je dirais, qui moi me parle moins, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pour tous les trois, hein, Diego et Dédé, c'est des grands musiciens. Moi, je vois les choses autrement.
Oui, c'est ce qu'on avait compris. En tout cas, on est plus dans la tradition de « Tiens, on va faire jazzer un classique » qu'avait initié Jacques Loussier, évidemment.
Oui, oui, oui.
Et c'est un peu ça qui fait école encore.
Si ce n'est que chez Bach, le swing est déjà là.
Ça facilite les choses.
Donc, ça permet quand même, ça aide. Là, c'est plus brut.
France Musique, Open Jazz, Alex Dutil.
On est vendredi, c'est le dernier jour de mon Jazz au Trésor de la semaine, inauguré lundi, cette réédition chez Fresh Sound dans la série rare et obscure Jazz Album de Gerald Wiggins, un pianiste de la côte ouest. On est en 1957. Il y a eu au début de la semaine une première comédie musicale, The King and I, et aujourd'hui c'est l'autre comédie musicale que je vous faisais écouter d'ailleurs hier et avant-hier, celle qui s'appelle Around the World in 80 Days, le tour du monde en 80 jours, une comédie musicale écrite par Victor Young. Gerald Wiggins est en trio avec Gene Wright à la contrebasse et Bill Douglas à la batterie, Way Out West. Thank you. Way Out West, extrait de Around the World in 80 Days de Victor Young. C'était un album signé Gerald Wiggins, le pianiste américain, en 1957, en juin 57, à Hollywood, avec Jim Wright à la contrebasse, qui l'année suivante rentrerait dans le quartet de Dave Brubeck, et Bill Douglas à la batterie. Vous qui avez longtemps été enseignant au professeur au conservatoire de Paris, au conservatoire national, au CNSM, Hervé Sellin, si vous aviez à analyser ce jeu de piano, vous diriez quoi à ce pianiste ?
J'ai pas grand-chose à lui dire de ne pas faire déjà. Par contre, j'entends beaucoup de choses. J'entends l'histoire du piano jazz, j'entends Ahmad Jamal, j'entends Errol Garner, et puis j'entends Gerald Wiggins, parce qu'en fait, c'est ça qui compte à un moment donné.
La singularité.
C'est de se sortir de ses maîtres tout en étant imprégné. Mais oui, j'entends toute l'histoire du swing et du piano jazz avec ces notions justement de modernité qu'ont pu amener Ahmad Jamal ou d'autres. On est en 1957, moi j'avais 3 mois, donc...
Voilà, ben c'était, ça aurait pu être un cadeau de baptême.
Oui, voilà.
Gerald Wiggins, heureusement et bien comme toujours très à propos, réédité par le label Fresh Sound. Vous êtes en concert avec le programme Fauré-Ravel, peut-être aussi un peu de Debussy, au Bal Blomet le 3 mai à Paris, Hervé Sellin. Vous allez les mélanger tous les trois ?
Alors je vais peut-être faire un petit mélange, parce qu'en fait le label Indécence, qui est donc le producteur que j'ai la chance d'avoir pour ces projets-là, est celui qui a produit aussi le disque sur Debussy, le premier Jazz Impression, mais aussi l'album que j'avais réalisé en hommage à Michel Legrand en 2021, qui est sorti au moment du Covid, tout à fait comme il faut. Et donc le Fauré-Ravel, c'est aussi chez Indécence, et le Satie qui va sortir peut-être l'année prochaine, c'est aussi chez eux. Donc en fait,
alors on aura peut-être un Satie en rappel.
Peut-être, mais plutôt quand même du côté de Debussy, parce que je vais avoir quelques invités pour quelques quatemains, et puis un merveilleux jeune saxophoniste que j'ai eu la chance d'avoir comme élève, qui viendra prendre la place de Claude Egea, le trompettiste qui ne sera pas là, c'est Rémi Fox.
Qui sera au Blomet aussi.
Au Blomet aussi.
Le 3 mai.
Voilà, le 3 mai à 20h. Et puis quelques surprises au piano pour me compléter.
Le jazz revient à l'Olympia. C'est mardi, le 30 avril. Et c'est Samara Joy.
Nostalgia hit me as I recall the day I knew that I loved you. You passed me by on a starry night. How could I forget you were stunning? A vision of perfection, heaven's very essence that you were, a shining star to me. Smiled was a work of art. You wouldn't believe how it thrilled me. We used to talk on the phone till 3. It made my mother so angry. And when we shared our first dance underneath the moon and starlit sky, I knew that you were mine. Together, all the memories made, that you would be tired by now. It should have grown dull or stagnant, but with each passing day, there's never a moment I regret saying hello, miss. How you doing? I would like to know you. You brushed me off immediately, gave me the coldest shoulder I've ever received, which made me want to get to know you even more. That's when I ran into you at the bookstore, your hair pinned back while listening to music. I said, pets, make your move now before it's too late. Don't let her get away, be brave. And then I said, darling, if you'll just give me a chance, I'll treat you like a queen, my world is yours. That was 50 years ago today. Despite the ups and downs, I wouldn't change a thing. think of my life without you. I don't think I'd make it. You're my anchor through every storm that's ever come our way. And I'm not just talking, I mean what I say. If you don't believe me, I'll just have to spend the rest of my entire life showing how much you mean to me. I'll sing, I'll dance, I'll shout it from the highest mountain. All this to say that I'm still so in love with you. Nostalgia hit me as I recall the day I knew that I loved you. And now the feelings are just as strong as when I first laid eyes on you. A vision of perfection, heaven's very essence, I believe you're all I'll ever need. Long as I live, I'll love you for all eternity, and I'm so glad you chose me.
Samara Joy dans Nostalgia de Fats Navarro avec ce rendez-vous mardi à l'Olympia. Et vous qui avez enseigné jusqu'à l'an passé au CNSM, à Hervé Sélin, vous avez une nouvelle à nous annoncer, c'est qu'il va y avoir un ou une professeur de chant au département de jazz du CNSM bientôt.
Oui, oui, ça c'est dans les tuyaux et dans les recrutements actuels. L'idée était d'ouvrir toujours les possibilités de cette classe et donc d'avoir quelqu'un qui soit pas seulement un professeur de chant, mais un professeur de chant adapté à l'instrument, adapté à la formation des musiciens de jazz. Donc quelqu'un qui pourra aussi faire travailler des ateliers et faire chanter des gens qui ne sont pas chanteurs.
Quand on voit le succès comme vocaliste de Médéric Collignon ou de Thomas de Porquerie, qui sont passés par le CNSM, et en ce qui concerne Médéric qui y enseigne, on se dit qu'effectivement la frontière est souvent ténue entre l'instrumentiste et le chanteur.
Oui, oui, mais ça nous ramène aussi à une chose, c'est que la voix est le premier des instruments. Donc quelque part, il ne devrait pas y avoir les instruments d'un côté et le chanteur de l'autre. C'est toujours la même chose, on nivelle toujours par le bas.
C'est ce que nous dit aussi Naïssam Jalal, qui chante et qui joue de la flûte, mais elle a pris goût à chanter en même temps qu'elle joue de la flûte. Elle donnera ses Healing Rituals, Naïssam, lundi, au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, dans la saison des rendez-vous mensuels de Saint-Denis Jazz. Éric Truffat, lui, sera à Pau pour deux concerts, lundi et mardi, à 20h, au Foirail de Pau, pour son programme sur les musiques de cinéma, Rollin and Clap. Et si on veut rester dans le sud-ouest, dimanche, à Tarnos, dans les Landes, dans le cadre des 4 saisons du jazz à Tarnos, un pianiste pétri de tradition, il est américain, vous le connaissez, Hervé Sélin, il s'appelle Emmett Cohen. Emmett Cohen, le pianiste qui sera en trio avec Russell Hall à la basse et Kyle Poole à la batterie à Tarnos dans les Landes dimanche à 17h à la salle Maurice Thorez.
France Musique, Open Jazz, Alex Dutille.
deux francophones à New York, Romain Collin, le pianiste, et Grégoire Marais, l'harmoniciste. Ils viennent de publier chez Act un album d'amour à Ennio Morricone, ou plutôt aux compositions d'Ennio Morricone. Les musiques de films, ça vous a tenté, vous, à un moment donné, Hervé Sellin, ou comme prétexte à jouer, à surprendre, à improviser?
Ben, je l'ai fait un petit peu concernant Michel Legrand.
Oui,
en plus, j'ai beaucoup travaillé avec lui, donc j'ai été un peu au cœur du processus. Après, essayer d'illustrer moi-même des musiques de films, de m'en servir comme répertoire, non, ça m'attire pas plus que ça, parce que j'ai préféré aller chercher autre chose, comme Debussy, Ravel, Fauré, mais musique de film, non, je vais au cinéma pour les écouter.
Le Clan des Siciliens, par Grégoire Marais et Romain Collin. C'est sort chez Act.
Thank you.
le clan des Siciliens dans l'album Ennio de Grégoire Marais, l'harmoniciste, et Romain Collin, le pianiste. Ils sont avec Marcus Gilmore à la batterie, Bernice Earl Travis à la basse, Martin Sewell à la guitare, Alexandra Sopp pour la flûte sur certaines plages. Il y a des invités d'ailleurs dans ce disque, il y a deux plages où on entend Cassandra Wilson et Gregory Porter. Ça sort chez Act pour les amoureux de Morricone. Et puis on va se quitter avec un bassiste que vous connaissez bien, Hervé Sélin, c'est le contrebassiste britannique Gary Brunton, qui publie un nouvel album qui sort aussi aujourd'hui, G-War, je suis pas sûr de la prononciation, c'est écrit en gallois, mais il est anglais, il est pas gallois, et il a publié ce disque avec François Janot au saxophone soprano, votre ancien collègue du conservatoire,
notre maître
aussi,
à tous.
Andrea Michelutti est à la batterie, et le pianiste sur ce morceau, c'est Paul Lai qui a pris votre succession au conservatoire.
Absolument.
François Janot n'était pas dans ce morceau-là, mais c'est un extrait de cet album G-War de Gary Brunton, le bassiste, avec Paul Lai au piano, Andrea Michelutti à la batterie. Je suis sûr que vous la doubleriez à nouveau pour vous succéder au conservatoire.
Ah oui,
Hervé
Sélin. Moi j'ai une grande tendresse pour lui et puis une admiration. parce que je l'ai connu très jeune et j'ai eu la chance de beaucoup le faire travailler, donc de le voir éclore comme aussi. Ça, et puis, bon, oui, pouvoir prendre, pas forcément ma place, mais je veux dire, le fait qu'il soit intégré maintenant à l'équipe de professeurs au CNSM, c'est formidable.
En tout cas, ça lui laisse du temps pour faire partie du groupe de Gary Brunton. J'espère bien qu'il en garde. Heureux. Merci, Hervé Célin, pour être venu
Alex.
Nous présenter ces jazz impressions sur Forêt et Ravel. On a pris rendez-vous pour le 3 mai. Vous aurez bien quelques exemplaires du disque sur place, j'imagine.
Oui, il va sortir, il sera présent en avant-première, parce qu'en fait, officiellement, il sort le 24 mai.
Et oui, c'est une avant-première, dans Open Jazz aujourd'hui.
On fait du business, là, c'est pas, attention.
Avec moi pour faire cette émission, Claire Levasseur, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Lundi, le nouvel album en trio du saxophoniste David Pré.
À réécouter sur francemusique.fr.